Thomas Bideguin qui fait son grand retour, donc oui. On attend une chronique de qualité.
On peut toujours attendre. Voilà.
Donc c'est à moi, et après avoir fait le tour du monde, je reviens enfin auprès de vous, mes véritables frères, sisters, c'est vous. Donc je reviens alors qu'un beau soleil de fin du monde règne sur la capitale et qu'à part la coupe de cheveux de Vizorek, tout semble avoir changé. Bon, je suis parti à peine un mois et déjà, bon, on m'a pris Gérard Collomb. Il est parti. Et avec lui, la promesse de tout un tas de formidables chroniques à base de jeux de mots, gastro-entériques. Et il a été remplacé par Castaner. Oui. Bon, celui que ses amis de droite surnomment Casta. Ouais. Et que ses amis de gauche surnomment Pauvre Con. Ça fait que... Enfin bon, il faut lui laisser le temps de s'installer et de se débarrasser de cet accent ridicule. Gostophobie, glottophobie, voilà. Et alerte glottophobe. Et oui, il est du Sud, il est tranquille. Et concernant le problème des migrants, il dit qu'il est en train d'écrire un livre qui s'appelle... Comment refouler sans se fouler? Un livre qui fera le pendant en librairie de celui de Macron, Comment remanier sans se manier. Et oui, tout a changé. Aznavour n'est plus là et Johnny sort un nouvel album, on en a assez parlé. C'est son 51e. Un nouvel album conforme à ses dernières volontés, puisque sur son lit d'hôpital, il aurait déclaré « Regarde dans les fonds de tiroir, regarde bien, il y a peut-être de quoi se faire un petit 51. » et puis voilà, Yarol Poupeau a pris ça au pied de la lettre. Enfin bon, une fois de plus, je reviens vous parler de storytelling, de tous ces petits membres d'histoire qui, une fois mis bout à bout dans un consulat saoudien, forment le corps des grands récits de ce monde. Ah oui, pardon. Mais moi aussi, je suis comme vous, je suis triste. Puis j'ai vu qu'on avait annulé le déplacement par Jupiter à Davos dans le désert. Donc je suis un peu, et même, enfin, en même temps, cette cruelle ironie ne vous a pas échappé, c'est que le type qui s'est fait découper les os vivants s'appelait Gemal. Gemal qui a choqué.
C'est vrai. C'est affreux.
C'est affreux. Et donc voilà, je reviens. Et comme vous voyez, avec la ferme intention de plomber l'ambiance. Parce que le thème du jour dans le monde du storytelling, c'est un concept un peu abstrait, un peu souterrain, mais qui sous-tend un grand nombre d'histoires. Et ce concept, c'est celui du cimetière indien. Le cimetière indien, c'est une tâche, un péché originel qui viendrait teinter les récits et les dramatiser comme une ombre portée sur un monde enchanteur. Ça apparaît très clairement dans le cinéma américain. Tout va bien, mais quelque chose ne va pas. Parce que la maison a été construite sur un cimetière indien. L'opulence, le bonheur, tout ça, ça a été construit sur un péché originel, celui du massacre des Indiens. On voit ça dans de nombreux films, dans Poltergeist, bien sûr, mais on peut aussi lire ça dans The Shining de Kubrick, ou à peu près dans l'ensemble des récits de Stephen King, tiennent là-dessus aussi. On n'a pas besoin de le nommer le cimetière indien, mais il est là, il est sinistre et inquiétant, comme une souillure primitive. Avec le cimetière indien, on est à la frontière de l'horreur et de l'inconscient, un peu comme avec les brèves de Vizorek. Voilà. En France aussi, on peut compter avec un cimetière indien. On le voit dans les films des années 70, chez Sauté ou chez Chabrol. Le récit est plombé parce que la maison a été construite sur un mensonge, le mensonge gaulliste de la France résistante. L'ombre de la collaboration plane sur les récits et sur les personnages. Tout n'est pas rose chez les Flamands roses. Et on voit Jean-Yann comme un monstre bourru et attachant ou picolique et calculateur et froid. Mais c'est la faute souterraine de leur père qu'ils interprètent. On retrouve ça, le cimetière indien, dans les comédies italiennes de l'après-guerre ou dans la folie des films allemands d'Herzog ou de Fassbinder, où tous les récits, même s'ils nous racontent autre chose, peuvent être lus à travers le prisme des horreurs qui les ont précédés et qui les traversent encore. Et ben, c'est comme ça qu'il faut lire les discours qu'on nous vend aujourd'hui, même si, et surtout si, ils nous parlent d'autre chose, parce que nous l'avons, nous aussi, notre cimetière indien, et il est en Méditerranée. Et Emmanuel Macron peut nous parler de ce qu'il veut, de rééquilibrage à gauche ou à droite, ou ni à gauche ou ni à droite, de pouvoir d'achat, de remaniement ou de taxes foncières, l'ensemble des faits et gestes pourra être lu sous le prisme de ces corps qu'on repêche en Méditerranée et du silence qu'il essaye d'imposer en refusant un pavillon à l'Aquarius. Et s'imaginer que si il n'y a plus personne pour sauver ces gens et pour raconter leur histoire, le problème va disparaître de lui-même, et ben c'est méconnaître la force du cimetière indien, qui reviendra irrémédiablement tenir l'ensemble de ces grands récits comme une malédiction, comme une ombre souterraine sous-jacente à chacun de ces discours. Et pour nous, ce sera pareil. On pourra raconter des histoires, on pourra faire des blagues sur l'actualité, partir, revenir. Mais cette honte-là, elle nous survivra.
Thomas Bideguin, merci, bravo.